m'en souviens assez. J'étais sensible à certaines choses auxquelles je suis resté sensible, du reste, des petites choses brèves, comme par exemple la Traviata, pardon. Pas toute la Traviata, parce que les opéras à l'époque, vous savez, c'était à l'époque du 78 tours, alors. En opéra, c'était ça, vous voyez. Non, c'était des extraits. Chez moi, il n'y avait pas du reste de phonographe. C'est venu assez tard. Ça peut paraître étrange, mais on écoutait les concerts, les quelques concerts qu'il y avait sur la radio française, et puis la radio italienne, comme on n'était pas très très loin de l'Italie, finalement, dans le Dauphiné, tout ça, il y avait d'assez beaux concerts sur la RAI, quoi. Voilà. Et moi, les premiers concerts que j'ai entendus, c'est des concerts de la RAI, en fait. Avec toute la terminologie d'annonce des concerts, etc. Voilà. Et j'ai beaucoup aimé la Traviata, par exemple. Les ballets, l'ouverture, certains airs, des choses simples. Hein. Je remarquais des choses plutôt dansées. Hein. Des choses de danse, de bal, par exemple. Ou alors de marche, par exemple. Mais quand j'étais tout enfant, là, je parle de 4-5 ans à peu près, hein. 3 à 5 ans, quoi. Et par exemple, bon, la Traviata, la scène du bal de la Fantastique de Berlioz, par exemple, avec les harpes et tout. Oui, les harpes, oui. Et puis la marche hongroise dans la Damnation de Faust. De Berlioz, la marche hongroise uniquement, hein. La marche, quoi. Des choses entraînantes, pas que des choses entraînantes. Hein. Et je me souviens très bien des endroits où je les ai écoutés. Je me suis senti très vite des affinités immédiates, hein, immédiates avec la musique du XVIe siècle. Parce qu'il faut dire aussi que je suis... D'abord, nous étions catholiques, donc messe, etc. Et puis les grandes fêtes, Pâques, etc. Voilà, et là j'ai un souvenir très précis. Donc c'était une église de campagne, de montagne. Hein, et les gens étaient très pauvres. Hein, et c'était des terres très arides, très dures, en pente, difficilement cultivables. Très peu de moyens de communication, et puis une ancestralité morale très, très importante, hein, très importante. Et une paysannerie extrêmement douce, très douce, avec quelques éléments, bien entendu, durs, bien entendu, des familles. Il y avait même des lieux, des lieux qui étaient un peu maudits, où il y avait des familles qui s'étaient en quelque sorte retrouvées, et qui étaient des familles plutôt dures, dont on disait qu'elles étaient dures et dangereuses. Sinon, l'ensemble des familles et des gens du village et des ouvriers, parce qu'il y avait quand même quelques usines, hein, c'était comme dans les Vosges, vous savez, c'est des zones semi-rurales et semi-ouvrières. C'était une population extrêmement douce, extrêmement solidaire, vraiment très gentille, très douce, très, très douce, très sympathique, pas d'histoire, pauvre, vraiment très pauvre. Et nous vivions nos milieux, on n'avait pas de maison, on vivait dans un appartement au-dessus du cabinet de mon père. C'était le bâtiment de la poste qui a été détruit il y a une quinzaine d'années. Oui, ça n'avait rien de princier, rien du tout. C'est important pour moi ça, et même dans tout ce que j'ai fait après, parce que c'était des régions qui étaient... C'est une région limitrophe. On est à 20 km du Rhône, sur Serrières, là, le Rhône, là, l'ancien Rhône, qui était si beau, bien entendu, qui était un fleuve extrêmement impétueux, maintenant qui est canalisé, qui n'est pas beau. Autrefois, c'était magnifique de voir ce fleuve. Et puis j'étais à deux pas de... On était très vite dans la montagne, à 1500 mètres. C'était l'extrême bord des Cévennes. Hein, des Cévennes, c'était le Vivarais. C'est des régions protestantes, hein, des régions où il y a eu des guerres de religion extrêmement violentes. Et il en restait quelque chose. Hein. Il y avait des bandes. J'étais à l'école catholique, l'école des frères des écoles chrétiennes. Il y avait l'école publique, bien sûr, et l'école. Il y avait l'école communale et l'école catholique. Il y avait donc des liens, quand même, malgré tout, entre les enfants. Il y avait par contre des luttes des camps. Il y avait deux camps. Il y avait le camp catholique et le camp protestant. Ça existait encore à cette époque-là. Et comme les enfants jouent beaucoup et que à l'époque il n'y avait aucun jouet, rien du tout. Il n'y avait, vous savez, pas de cinéma, rien du tout. Donc on jouait en fait à se faire peur. En fait, on s'amusait et on inventait nos jeux. Comme font un peu les enfants encore aujourd'hui, j'espère. Enfin, moins certainement. Il fallait tout inventer. C'était le lieu où Saint Régis, le patron de. Ben oui, Saint François de Régis, qui est le patron donc des Régis, avait essayé de reconvertir les Huguenots en bons catholiques. Et il avait laissé plusieurs objets, c'était au XVIIe siècle, hein. Il avait laissé quelques objets personnels dans des fermes qui, pour cette raison, étaient vénérés. Et dans des familles qui étaient les mêmes que celles de l'époque. Parce qu'il y avait des familles paysannes qui sont aussi anciennes que les plus anciennes familles dites nobles. Hein. C'est pas... Il y a des dynasties paysannes, enfin, il y avait en tout cas des dynasties paysannes extrêmement anciennes. Et c'est, en général, c'était des familles très morales, des familles très nombreuses, bien entendu, très morales, très croyantes, très douces aussi, des gros yeux, très doux, très... ça, très... un peu... extatiques, comme ça. Mais plein de santé. Et qui, eux, il y avait des familles qui gardaient la canne de Saint-François-Régis, par exemple. Alors, c'était des fermes bénies. C'était des fermes... où on entrait avec une certaine... certaines formules, quand même, avec beaucoup de respect. Voilà. Et la région avait été, pendant la guerre de religion, dévastée par le baron des Adrets, protestant. Alors, bien sûr, il y avait eu un siège du village par le baron des Adrets, etc. Donc, tout ça était pas dans la mémoire des gens, mais dans la mémoire des ancêtres qu'il avait transmis, etc. Bref. Voilà. Mais... ce curé qu'on a eu à cette époque-là, qui était un homme remarquable du reste, et qui est resté, je crois, 20 ans à peu près, qui était très avancé politiquement, puisqu'il est allé jusqu'au moment, en pleine guerre d'Algérie, il est allé jusqu'à comparer, ce qui était scandaleux à l'époque, en 55, à faire une liaison entre le FLN et la résistance française, en chair. Si vous vous rendez compte, à l'époque. Bref. Mais il y avait des... Je me souviens qu'à Pâques, par exemple, pendant les... Ce qui est très important, au fond, on apprend la musique beaucoup par la liturgie. Hein. Ça, c'est évident. En Allemagne, c'était comme ça que tous les musiciens allemands sont devenus ce qu'ils sont, hein, par la liturgie. Mais pour nous aussi. Et par la liturgie, et... Dans cette église, on chantait bon, l'office en latin, et surtout c'était les offices de Pâques et de Noël. Et pas forcément de Noël même, mais de la période qu'on appelle l'Avent. L'Avent Noël, la période de l'attente. Qui pour nous est évidemment l'attente des jouets, bien entendu, des jouets des vacances, bon, surtout. Mais enfin, cette liturgie de l'Avent est extrêmement belle. C'est une liturgie de l'attente. Et moi, l'attente est quelque chose qui me plaît beaucoup, artistiquement parlant. J'en ai parlé dans pas mal de livres, tout. C'est un élément du drame qui fait le drame, même, qui est le principal du drame. Attendre quelque chose, comme désirer quelque chose, beaucoup plus que d'en jouir, en quelque sorte. Et donc, cette période de l'Avent était très belle, parce qu'il y avait une très belle liturgie, hein, avec du reste un très beau latin, pour une fois, un latin d'église très beau, dont je me souviens encore tout à fait bien. Avec donc des chants, des cantiques, etc., des choses en latin. Et puis, à Pâques, il y avait, pendant la semaine sainte, qu'on suivait aussi beaucoup, il y avait le vendredi saint, ou peut-être le jeudi saint, le soir, je crois, pour le lavement des pieds. Il y avait, toutes les années, il y avait, on chantait, nous chantions, avec nos voix d'enfants, bien entendu, avec il y avait des femmes, des hommes qui chantaient. On chantait les chœurs de la fin de la Passion selon saint Jean, de Bach, en français, une adaptation française que je n'ai pas retrouvée. Et les deux derniers chœurs, surtout l'avant-dernier chœur, est resté pour moi une chose unique, quoi. Et je l'ai réécouté, du reste, je me suis rendu compte qu'inconsciemment, sans le vouloir, c'était une musique que je remettais, si je puis dire, dans les moments, pour moi, personnellement, de grande, disons le mot, quoi, de grand abandon, de grande détresse, quoi. Comme en 81, je me suis aperçu, c'était pas du tout volontaire. Il se trouvait que j'avais dans mes cassettes, c'était ça que je choisissais, et je n'écoutais plus que ça, ces derniers chœurs. Vous savez, c'est, en allemand, c'est Rotwoll, c'est-à-dire reposer, ossement saint. Reposer ossement saint du Christ, etc. En plus, c'est beau, le texte est beau quand même. Et on chantait aussi des petites choses du XVIe siècle, c'est-à-dire des petits motets, des petits cantiques du XVIe et du début du XVIIe. Et par exemple, c'est comme ça que j'ai commencé à écouter des œuvres de Roland de Lassus, Orlando di Lasso, enfin comme on veut, qui restait pour moi qui est peut-être le musicien le plus proche, musicien donc qui a vécu au XVIe siècle, à l'époque de Palestrina en Italie et de Victoria en Espagne, qui sont les trois grands de cette époque-là. Et il se trouve aussi que après je suis allé en pension donc très tôt, hein, j'entends en pension à nous 8 ans et demi. Et là, c'était très austère. Hein. Je suis resté 3 ans dans cette petite école en pension. 8 ans et demi, c'est un peu dur quand même. Il se trouve que je considère ces 3 années comme les plus merveilleuses de ma vie. C'est très curieux. Pourtant, c'était les plus rudes. C'était en pleine campagne, dans la montagne, pas très loin de chez moi, mais nous ne sortions que 2 fois par an. J'ai fait une autre découverte, enfin une autre, disons, formation, la musique, hein, quand je suis allé en pension, quand on m'a mis en pension, c'est comme il y avait une sorte de, ce qui correspondrait à un CES, quoi, à peu près maintenant, je pense, hein, que j'étais censé, donc, comme on dit, aller plus loin, bon, bref, donc faire des études. Déjà, je peignais à l'époque, hein, c'était... Faut pas oublier ça aussi, c'est que je peignais énormément, parce que ma mère dessinait et peignait assez bien. Et c'est un peu avec elle que j'ai appris aussi à peindre et à dessiner. Chose que je ne fais plus du tout maintenant, mais que j'ai beaucoup fait à partir de cette période-là. Pendant toute mon adolescence, jusqu'à 16-17 ans à peu près. Voilà. Donc en quelque sorte, il y avait les... Mais justement, là... Aller en pension à cet âge-là supposait que je prenais quelques cours de piano. Il y avait, comme dans tous les villages, il y avait une dame, la professeure de piano. Hein. Quand un village dépassait de 1000 ou 2000 habitants, il y avait toujours une dame qui donnait des leçons de piano. Peut-être même à l'école aussi, du reste, c'était pas forcément réservé. Hein. Et c'était sa maison était jouxtée celle de ma grand-mère, de son jardin, de ma grand-mère paternelle, donc.
chez lesquels il n'y avait jamais de musique. Jamais, 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 jamais de musique. Du côté de mon père. Et donc j'ai commencé à jouer du piano, là. Et puis quand j'ai suis allé en pension, tout s'est arrêté. Parce que il n'y avait, avait pas de piano dans cette école. Et puis c'était pas prévu. Mais je vais en reparler parce qu'il y a une contradiction là. Car en fait, c'était une école, comme je l'expliquais souvent, une école, une petite école cléricale. Donc c'était censé préparer les enfants, les petits-enfants, les enfants de paysans essentiellement. Hein, essentiellement. Mais pas, c'était pas du tout une école de privilégiés. Les petits paysans qui, de toute la région, on était 40, même pas, 35 je crois, 38, censé préparer le petit séminaire, voilà. Alors c'était des études qui leur étaient payées par un diocèse, etc. Mon père avait quand même bon un peu les moyens, quoique étant très mal payé, et souvent se faisant pas payer du tout, comme tous les, vous savez, une figure de médecin tout à fait classique, mais quand même un type de médecin qui, je pense, a disparu aujourd'hui. Du reste, il serait impossible de vivre comme nous vivions financièrement à l'époque. Il faut de l'argent maintenant pour vivre. À l'époque, il en fallait moins. J'étais donc dans cette petite école qui préparait, donc, qui était censée préparer. Moi, ce n'était pas pour aller au petit séminaire après. C'était pour continuer des études, faire du latin, du grec, etc. Et ça a été très profitable parce que c'était très rude, très austère, mais c'était extraordinaire comme enseignement et comme. Enfin, moi, j'ai trouvé ce lieu. Je me suis tout à fait adapté très vite, à ce lieu où c'était dirigé par trois prêtres et une demoiselle qui faisait les mathématiques, qui était terrifiante, et dont j'avais très peur, bien entendu, et parce qu'elle était assez terrifiante physiquement et qu'aussi elle apprenait les mathématiques, chose qui me faisait peur aussi, tout en m'attirant beaucoup. Mais les trois autres, c'était des prêtres de campagne, c'était même pas un ordre, c'était des prêtres du diocèse. C'était dirigé par un prêtre qui avait un rang de chanoine, du reste, qui était un homme étonnant, que j'ai beaucoup aimé, qui a été une sorte de père pour moi. Oui, de second père, d'une certaine façon, père culturel, disons. Parce que c'est déjà un très vieil homme. Il avait une tête très extraordinaire. Et c'était le frère de Léon Vallas, qui a été le premier, et l'ami, qui a été l'ami et le premier biographe de Debussy. Mais ça, je ne l'ai su qu'après, parce que Debussy, je ne savais pas encore à l'époque. Et puis j'étais comme ma mère, j'étais assez monté contre cette musique. Voilà. Mais lui était le frère, et c'était un mélomane et un musicien. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de piano, mais il y avait un excellent harmonium. Et on chantait toutes les messes, on les chantait. Et on les chantait en français, en plus. Car c'était un prêtre très curieux, très original, qui avait toutes sortes de principes. Ce que beaucoup ont retenu, c'est uniquement les principes alimentaires. Parce que c'était après la guerre, juste après la guerre. Il y avait encore du rationnement. Et là, c'était encore plus pire, si je puis dire, qu'ailleurs. Et en plus, il ajoutait à ça un régime, qui était le régime du professeur Carton. Ça dit bien ce que ça veut dire, déjà. C'était un régime absurde, vaguement végétarien, avec des graines et tout. Et ce qui fait qu'on avait très faim tout le temps. Et avec l'air, on était à près de 1000 mètres. Et on avait toujours très faim, bien entendu. Et voilà. Mais, enfin, à cette époque-là, tout le monde avait faim encore, de toute façon. Mais lui, donc, était un excellent musicien. Et on chantait, on ne faisait rien en latin. C'est-à-dire qu'en même temps, on apprenait très tôt le latin et le grec. Et même, je crois que mon professeur, celui qui m'a appris le grec, vit toujours, c'est extraordinaire, qui faisait le français et le grec et le latin en cinquième. À l'époque, c'était la cinquième, je ne sais pas ce que c'est maintenant. Donc c'est très étonnant quand même d'avoir que celui qui m'a appris les Grecs et voilà, auquel j'ai rendu des dissertations, des rédactions, etc. Enfin, des rédactions plus exactement, est toujours tout à fait bien en vie et avec tout son esprit et tout. Voilà. C'est quelqu'un de la région. Une région où les gens vivent assez vieux, ce qui est un très bon air. On chantait rien en latin. C'est extraordinaire. Tout était en français. Alors que c'était interdit à l'époque. Maintenant, c'est le contraire qui est interdit. C'est de... Enfin, interdit, pas tout à fait, je crois. Mais... Donc ça nous changeait totalement. Et il avait écrit... Il écrivait des choses, lui-même. Et alors, on était vraiment beaucoup dans la musique parce que il y avait de la musique tout le temps. Mais de la musique qu'on chantait. Hein. Il avait, je pense, un phonographe. Un autre père avait un phonographe, j'en parlerai plus tard. Mais lui, puisqu'il en écrivait de la musique, il n'avait pas besoin d'en entendre. Mais il écrivait donc des cantiques. Il écrivait toute l'armature, si je puis dire, musicale, du rituel. C'était un rituel, cette école. Du rituel quotidien, ou mensuel, hebdomadaire, etc. Des fêtes, des marches qu'on faisait, de tout. De toutes les dévotions. Alors, il y avait des chants, évidemment, qui existaient déjà, comme le Salve Regina, que nous chantions tous les soirs devant dehors, devant l'église, devant la... C'est en pleine nature, hein. Il y avait un vague hameau à côté, c'est tout. Pleine nature, et... On chantait donc le Salve Regina devant une vierge tout à fait normale, si je puis dire, qui était dans un petit bosquet de sapins, comme partout, et qui avait la particularité, c'était la vierge qui écrase le serpent. Voilà. Donc j'ai vu ça, elle est toujours en vie, j'allais dire, cette statue. Alors il avait composé une messe, dont je me souviens encore, puisque nous la chantions, qui l'avait fait imprimer, du reste, et qui est toujours disponible, je crois. Il faudrait retrouver, la faire chanter, je ne sais pas, en français. Je sais que, par exemple, ça commençait... Je ne sais même pas si ça suivait l'ordre de la liturgie, c'est le Kyrie, le Gloria, le Credo. C'était un truc à lui. Et c'était ce qu'on chantait pendant la messe. C'est tout à fait extraordinaire, quand même. Il n'était pas du tout en rupture de banc, il était considéré comme un très grand éducateur qu'il était, au moins avec certains enfants, dont moi, ça réussissait très bien, avec d'autres pas du tout. Mais c'était un homme qui... C'est très important pour un enfant, c'était un de ces adultes, c'était déjà un très vieil homme, un adulte qui a de la considération pour l'enfant, qui le considère déjà comme une personne, donc devant être encouragé personnellement, pas dans la masse, devant être encouragé personnellement, chacun... séparément, et un adulte qui s'intéresse à vous, c'est formidable. Il s'intéresse à vous sans qu'il y ait de l'intérêt. Il n'a aucun intérêt. C'est des gens qui vivaient dans un état de pauvreté totale, hein, ces prêtres. On l'a aussi un peu oublié, ça. Pauvreté matérielle totale. Et lui, en particulier. Donc le seul intérêt, c'était de découvrir des enfants, de les aider à passer à l'adolescence, puisque on était toujours des enfants. Et il développait beaucoup, disons, l'imagination, l'imaginaire. C'est-à-dire que ce qui, chez moi, était considéré, était quand même, malgré tout, malgré l'imagination de ma mère et la relative facilité d'accès de mon père, qui était un homme extrêmement affectueux, etc., l'imagination était considérée comme quelque chose de dangereux, quand même, hein. L'art aussi. L'art était en même temps admiré, vous savez, c'est la contradiction de toutes ces familles-là. L'art est admiré, l'art est avancé, toujours, quand il s'agit de brandir le drapeau de la nation ou de la civilisation. Et puis, nous avons Beethoven, nous avons Voltaire, etc. Et puis, dans la réalité, il y a une crainte terrible, de la vie d'artiste. Et moi, comme je donnais tous les signes, parce que je peignais, parce que j'écrivais des petites choses, etc., tous les signes d'une vie, placée sous le signe de l'art, n'est-ce pas? Mes parents, et ma mère beaucoup, ma mère avait peur, et donc peut-être par réaction, peut-être forçait-elle sa nature pour éloigner en même temps, mais elle se contredisait tout le temps, et ça, je le voyais bien, ça. Je voyais la contradiction qu'il y avait entre le discours admiratif de la peinture, par exemple. Elle avait une grande passion pour Cézanne, par exemple, ce qui était pas mal, tout de même, pour l'époque. Cézanne, même Picasso. Mon père et ma mère, quand il arrivait de prendre des vacances ensemble, ce qui était très rare, mon père ne prenait jamais de vacances. Et il en est mort du reste, il est mort d'épuisement. Mais quelquefois, il voulait faire plaisir à ma mère, ils allaient, ils partaient quelques jours. Et il avait vu une grande exposition Picasso à Genève, je crois, voilà. En 1900, fin des années 40, je pense, voilà. Et ma mère en avait gardé un souvenir extraordinaire. Il y avait toutes les périodes, hein, voilà. Donc elle aimait beaucoup Picasso, elle aimait beaucoup Chagall, par exemple. Parce que Chagall lui rappelait aussi les confins russes, etc. Elle avait toujours eu un grand amour de Chagall.
Musique de Pierre Guyotat. Psaume de Claude Goudimel, estant assis aux rives aquatiques. Ensemble, Clément Jeannequin. Prophétie des Sibylles, de Roland de Lassus, par Lillard Ensemble. Les impropères du Vendredi Saint, de Palestrina, par le chœur Concinite de Louvain. Direction Karel Hertz. Équipe de réalisation, Pierre Monteil, Valentina Parlato, Jacques Taroni.